Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.
Bonjour Déborah, cher enfant.
Bonjour Cyril.
Merci d'être passé dans notre humble studio pour nous parler.
Un studio que je connais déjà, mais c'est vrai que c'est la première fois que je viens te voir.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est, faisons vite les choses. Oui, tu es entré quand je parlais de la soirée héritage de jeudi
du
dernier.
Du CECAM,
ouais.
Où on s'est croisés.
Voilà.
Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire.
Hommage, mais tu l'as déjà dit. On ne peut plus reculer.
On n'était pas habillés de la même façon, mais on s'est vu jeudi soir.
C'est parti, c'est balancé. Non, une belle soirée où on a rendu vraiment hommage à un grand monsieur et tout ça. Mm-hmm. En deux mots, comment tu le décrirais, Franck Saint-Élémy?
Visionnaire, ambitieux, mm-hmm. Est-ce que ça se dit? Est-ce que je peux mettre ces deux mots-là ensemble? Ce n'est pas un pléonasme? Non, je pense un visionnaire ambitieux, c'est... un homme de peu de mots, mais de beaucoup d'actions. Mmh. Donc, ça, c'est plus que deux mots. Mais oui, et c'est un... Je vais même reprendre ce qu'il a utilisé. Comment il s'exprimait? Il est la statistique improbable.
Improbable. La statistique improbable,
donc,
effectivement.
Donc, je pense que deux mots, je reviendrai à ces deux mots-là que lui-même utilise pour se
improbable.
Définir.
Exact.
Statistique improbable. Mmh.
Mmh. Voilà. Merci d'être là, Déborah. Ça fait un moment qu'on se cherche. On se cherche pour que tu viennes parler ici. Parce que on connaît ta casquette, et je l'ai dit comme ça, de chroniqueuse dans les médias, mais dans la vraie vie, hein, parce qu'il faut que les gens le sachent, dans la vraie vie, tu es quand même à la TD, où tu es directrice régionale des femmes entrepreneurs. Ouais. Ça consiste au Québec et Atlantique. Ça consiste en quoi exactement?
Alors, concrètement, je suis responsable au niveau du développement des affaires, donc ça inclut la gestion des partenariats, la gestion de projets et l'accompagnement aussi, non seulement à l'interne de nos banquiers bancaires qui travaillent et qui accompagnent nos femmes entrepreneurs, mais aussi l'accompagnement des femmes entrepreneurs qui sont soit déjà clientes ou qu'on voudrait avoir comme cliente au sein de notre institution. Donc, ça tourne autour de beaucoup de gestion d'événements, de gestion de partenariats pour nous assurer d'avoir les bons alliés pour arriver, pour atteindre un peu l'objectif qu'on s'est fixé d'être la meilleure banque pour les femmes entrepreneurs d'une part, mais aussi un objectif de faire en sorte de bouger l'aiguille. On le dit plus, ça fait plus de sens quand on le dit en anglais, move the dial, move the needle. Mais concrètement, le gouvernement fédéral s'est donné un objectif de doubler le nombre de femmes entrepreneurs de 2022 à 2027, par exemple, donc sur 5 ans. Et nous, on veut contribuer à cet objectif. Et donc, c'est pourquoi aussi, au-delà d'être la meilleure banque pour les femmes entrepreneurs, on veut aussi concrètement contribuer à faire doubler le nombre de femmes entrepreneurs à travers le pays.
Donc, c'est pas juste, c'est PR aussi?
Ça devient PR avec mes différents chapeaux, effectivement. Okay. Mais oui, il y a un rôle de communication parce qu'on représente quand même la banque dans plusieurs instances, initiatives, événements. Mais PR ne fait pas partie concrètement de mon rôle.
Concrètement de ton rôle, si tu es plus dans le concret.
Exact.
OK. Donc, les femmes entrepreneurs qui nous entendent là, Déborah Cherenfant, étape, et puis tu es en contact avec toi.
Que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, ou même me rejoindre directement par courriel à la banque.
OK. Le second chapeau, et c'est vraiment la raison pour laquelle je souhaitais que tu viennes ici à l'émission pour qu'on parle, c'est celui de chroniqueuse. J'ai dit chroniqueuse, tout média confondu. On t'a beaucoup entendu jusqu'à l'année dernière encore. Tu étais sur Radio-Canada deux matins
jusqu'à
par semaine
été, oui.
Jusqu'à l'été.
Un matin, une
c'était,
fois par semaine.
C'était une
mardi.
Fois par semaine, voilà. Oui. Maintenant, tu es à Novo, au débatteur et tout. Comment tu es devenue chroniqueuse?
Pour faire une longue histoire courte, je suis devenue chroniqueur, chroniqueuse en fonction des jours. Et effectivement, j'utilise un terme différent. Et je préfère même, sans vouloir te corriger, je préfère commentatrice.
Commentatrice, OK.
Oui,
alors moi,
là,
ça allait être une autre question, mais vas-y. Vas-y.
Directement dans ta prochaine question
tu dis
sans savoir.
Commentatrice,
je préfère commentatrice parce que je veux respecter le métier de journaliste, déjà d'une part, et aussi le métier ou la fonction de chroniqueur, ce que je ne suis pas. Je viens, dans un moment précis, commenter l'actualité en fonction d'un sujet qu'on me donne, que ce soit à la radio, comme je l'ai fait au cours des deux dernières années et demie, à l'émission Tout un matin sur Ici Première, mais aussi aux débatteurs, donc je commente l'actualité. Oui, il y a la régularité qui fait en sorte que les gens ont l'impression que je viens présenter une chronique, mais c'est vrai que je préfère la notion de commentatrice. Parce que ce n'est pas mon métier, c'est un rôle que je reçois et que je remplis avec beaucoup de respect et aussi beaucoup de privilèges, mais effectivement, c'est plus un rôle de commentatrice.
De commentatrice.
Avec lequel je suis plus à l'aise.
Voilà. Je le disais, tu as anticipé un peu sur la question que moi j'allais poser, parce que c'est dans chroniqueur, et tu le dis, tantôt je parlais, je disais, je parlais chroniqueur, puis j'ai dit, chroniqueur, c'est d'abord des journalistes.
Exactement.
Alors, il y a chroniqueur.
Ce que je ne suis pas.
Voilà. Il y a chroniqueur d'opinion, puis il y a chroniqueur sur certains sujets, et quand je disais que j'allais anticiper, parce que j'allais te demander, est-ce que tu porterais le chapeau de chroniqueur d'opinion. Mais finalement, tu me corriges, tu me dis que tu es commentatrice.
Je préfère commentatrice. Oui.
Ce qui veut dire que tu peux avoir ton opinion.
En fait, j'ai tout le temps ça qui devient des fois, et je suis convaincue que le fait que je vais le dire, que tu vas vouloir fouiller un petit peu là-dessus, allons-y. C'est là où ça devient complexe, en fait. Je ne donne que mon opinion et mon opinion. Par exemple, dans ces rôles-là, je ne représente pas la Banque Td. Ça, c'est super important préciser.
Exactement.
Donc, ce n'est pas l'avis, la posture de l'institution, mais c'est l'avis de Déborah et, j'allais dire, pire. Mais plus encore, au-delà d'être la vie de Déborah, chère enfant, c'est la vie de Déborah, la citoyenne. Pas la vie de Déborah, la professionnelle qui a étudié en économie, en entrepreneuriat et qui pose un regard peut-être développement économique, mais c'est vraiment la vie de Déborah, la citoyenne, qui vit et veut vivre dans une société juste, équitable, progressiste et qui fait de la place pour tout le monde, où elle voudrait voir l'égalité des chances pour tout le monde. Donc, ça se traduit de différentes façons à différents niveaux. Mais c'est la vie de Déborah, la citoyenne avant tout.
Lorsque Radio-Canada t'appelle il y a 2 ans?
J'ai pas répondu à ta question maintenant que j'y pense. Comment je suis devenue chroniqueuse, d'opinion,
commentatrice. Non, t'inquiète, on va y revenir. Quand ils t'appellent, ils te disent ce qu'ils te veulent, pourquoi?
Pour commenter l'actualité, en duo, c'est plus, étant donné qu'on est dans une émission d'actualité, donc bien évidemment, l'aspect politique revient souvent, des enjeux sociaux, des questions sociales. Donc oui, c'est ce qui fait le plus de bruit, c'est cette notion socio-politique plutôt. Ce qui a facilité la chose, moi, quand on m'a approché, c'était pour la première année en 2021. Donc, j'ai commencé en janvier 2021, après avoir fait un pilote, justement, à l'époque avec Marie Grégoire, aujourd'hui la PDG de la BANQ. Donc, j'ai commencé, justement, en étant accompagnée par une très grande dans ce milieu-là qui a fait, une bonne partie de sa carrière comme chroniqueuse, commentatrice. Et donc, j'ai été accompagnée en duo avec cette personne-là pendant une saison. Et puis après, ça a été avec Isabelle Haché pendant 2 saisons et puis avec Paul Journet vers les 2 dernières saisons. Donc, effectivement, ça a été comme ça que ça a commencé. Donc, un souhait de diversifier les voix, de diversifier les personnes. À l'époque, j'avais encore mon chapeau de présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, il y avait tout ça aussi qui faisait en sorte que, en tant que jeune femme de la diversité, mais aussi qui représente d'une certaine façon la relève d'affaires à l'époque, que cette notion de diversification des voix qu'on entend à la radio, c'était important.
Parce que tu étais la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mais tu avais ce qui te donnait une certaine plateforme.
Exactement.
Et que tu utilisais, ça on va le dire. Petit rappel, c'est que avant président de la Jeune Femme de commerce, tu étais déjà dans l'espace public où tu intervenais pas mal. Je pense notamment à ce blog aussi.
Exactement.
Où tu recevais
modèle, oui.
Où tu recevais des femmes et tout ça. Allons rapidement. Tu rentres là-dedans et une chose importante aussi que tu viens de dire, c'est que t'es pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Tu as été accompagné.
Oui.
Tu as été accompagné pour prendre des bases. Combien de fois tu as été dans le trouble?
Wow! Ah oui, on y va direct comme ça. Combien de fois j'ai été dans le trouble? Pas souvent. Okay. Pas souvent. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Je me rappelle d'une fois, et c'est drôle que tu me poses cette question, parce que je me rappelle de... et là, on est en 2021 encore, printemps 2021. Je ne sais pas si ta mémoire est aussi bonne que la mienne, mais... À cette époque, on vient de nommer Benoît Charrette comme responsable de la lutte au racisme.
Tout à fait.
Et là, je me rappelle que la question directe qui m'est posée en onde, c'est si ça me dérange qu'une personne blanche soit responsable à ce poste-là. Et là, en l'espace de 3 secondes, il faut que je réponde à la question, mais est-ce que je réponds véritablement ce que Déborah pense ou est-ce que je réponds la réponse formatée? Et j'ai été dans le trou parce que j'ai répondu la réponse formatée, dans le sens où, a priori, ça ne me dérange pas parce que c'est un dossier qu'en tant que ministre, il va devoir porter comme tous les autres dossiers. Mais fondamentalement et au fond de moi, c'est sûr que ça me dérangeait. Mm-hmm. Mais là, effectivement, j'ai été dans le trouble. Pas un gros trouble, mais dans le trouble, quand je retourne dans mes milieux d'amis plus militants que moi, ou même pas être plus militant que moi, parce que moi, je ne le suis pas, mais mes amis militants au sein des communautés noires, c'est sûr que ça crée des frictions. Mm-hmm. Et ça, je m'en rappelle encore.
Tu fais le lien, et ça m'arrange. Mm-hmm. Tu es nommé en 2021. Mm-hmm. On te choisit en 2021. Tu les commences. On sort de la période George Floyd. Mm-hmm. Tu viens de parler de la nomination de Benoît mm-hmm. Charrette. Oui. Donc, on commence à avoir quelques figures issues des communautés noires
prendre place dans les médias.
Mm-hmm. Est-ce qu'à ce moment-là, on te le dit ou de manière indirecte, tu vois sur tes épaules, j'ai la responsabilité de ces communautés noires quand je prends le micro? Est-ce que tu les portes, cette responsabilité?
Deux éléments à ta question et je vais répondre à deux niveaux, effectivement. Est-ce que j'ai conscience qu'on me choisit parce que je suis une personne noire? Bien sûr, ce n'est pas du tout, je ne fais pas l'autruche en l'analysant ou en le constatant. Par contre, je ne porte pas les communautés noires sur mes épaules. Je ne sens pas cette responsabilité de véhiculer les messages des communautés noires parce que, et je l'ai dit rapidement tout à l'heure, je ne suis pas militante. Je n'ai pas du tout cette responsabilité, ce métier, ce rôle que je respecte beaucoup trop et que je n'ai pas très souvent le courage de faire. Donc, en ce sens-là, je me vois mal devenir tout de suite militante parce que j'ai cette voix-là dans les médias. Par contre, j'ai une responsabilité en termes de représentation quand je suis là et que j'ai ce micro. Même si toutes les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas les messages des communautés noires, mais il faut que j'aie conscience que non seulement je suis une femme noire, mais aussi quand on me regarde, on voit d'abord et avant tout une personne noire, donc on s'attend à entendre les messages ou les lignes des communautés noires. Donc là aussi, il faut faire la part des choses et c'est pourquoi je le disais, ce que je commande ou ce que je dis ou la façon dont je commande, c'est la vie de Déborah, la citoyenne. Mm-hmm. Bien évidemment, la citoyenne est une femme noire, immigrante, qui est née en Haïti, qui a passé la majeure partie de sa vie en Haïti. Donc, c'est sûr que ça teinte. Mais est-ce que je sentais ou je portais ce poids-là des communautés? Non, je ne voulais pas parce que je ne pensais pas être la meilleure porte-parole non plus. Je n'avais pas ce rôle-là avant le micro. Je ne vois pas pourquoi maintenant je devais l'incarner.
Est-ce que ça t'a été demandé souvent?
Non.
Ça t'a été reproché? Par tes mêmes amis, entre guillemets, militants?
Reprocher de vive voix, non.
OK.
Non, non. Peut-être que ça a dérangé, mais il n'y a personne qui serait venu me le dire en pleine face. Mais mm-hmm. je suis convaincue que ça a peut-être dérangé. Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Puis ça, je le conçois très bien. Je vis bien avec parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas mon objectif. Et c'est là où... aujourd'hui, je peux te parler, après le recul et aussi maintenant que la collaboration n'est plus, que c'est pourquoi je suis plus à l'aise de dire que c'est maintenant la vie de Déborah, la citoyenne, et pas la vie de, justement, Déborah...
La personne publique que tu es.
Exactement, ou la personne noire, ou l'immigrante, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont assez subtils, mais qui font partie de la personne, de mon identité, de ce que je suis et ce que je représente quand je sors. C'est quand même ce qui est beaucoup plus visible. Donc, les gens, oui, s'attendent, mais je ne peux pas tout le temps rentrer dans ce piège. Ce n'est pas la connotation négative du piège, mais je ne peux pas tout le temps rentrer.
Des discussions, est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Oui, dans cette espèce de discussion. Exactement, les discussions, ces conversations, c'est mieux. Mm-hmm.
Ouais. Il n'en reste pas moins que ta présence de manière régulière sur cette antenne-là a rendu la chose, je fais des guillemets, on n'est pas à la télé, a rendu la chose normale, qu'on entende des voix de Déborah, de Fabrice Ville, mm-hmm. d'Émilie Nicolas,
de Vanessa Destinée,
oui. qu'on entend ces voix dans des émissions à grand public, oui. qu'on les entend de manière naturelle, normale.
Oui, oui,
ok.
Oui.
Tu quittes Radio-Canada et tu le faisais parallèlement,
c'est vrai,
tu te retrouves
oui.
à Novo chez Bell. Mm-hmm. Tu es débatteur dans une émission qui s'appelle Les Débatteurs.
Oui.
Tu commandes l'actualité ou tu débats?
Je débat de l'actualité.
Ok. Parce qu'à Radio-Canada, on s'entend. Tu recevais un sujet,
oui.
quoi. C'était généralement, rapidement, c'était quoi? La veille, on vous appelait, on vous disait, bon, demain, on va parler de ça, on aimerait avoir votre avis, ou c'est vous qui proposiez?
Non, en fait, comme c'est une émission d'actualité, effectivement, on a les sujets, il faut que ce soit des sujets chauds. Donc, c'est soit la veille ou la journée même pour faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose à dire sur quelque chose qui est d'actualité, mm-hmm. effectivement. Donc, on pourrait proposer des sujets, c'est arrivé quelquefois, effectivement, comme une actualité qui nous interpelle beaucoup plus et comparativement à ce qui était peut-être moins fort ou moins chaud dans l'actualité. Mais oui, on avait les sujets à peu près la veille ou le matin même pour faire en sorte qu'on puisse garder cette notion d'actualité et de commenter l'actualité pour pas que ça soit quelque chose qui date d'une semaine ou d'il y a 10 jours.
Tu disais tantôt, effectivement, toi, tu n'es pas journaliste. Parce que moi, l'actualité, je la bouffe. Mm-hmm. Je vis dedans. C'est Twitter.
Je la consomme.
Mm-hmm. Mais pour toi, qui va le faire une fois comme
oui.
ça, c'est quand même au-delà
c'est
de ça.
Exercice.
Il y a ton travail à côté aussi, non?
Exactement. Mm-hmm. C'est un exercice. Et c'est pourquoi je disais et je tiens effectivement à le préciser. C'est trop un métier que je respecte, qui n'est pas ma réalité de journalisme ou de chroniqueur. Donc, cette actualité, je l'ai consommée pendant ces 2 années. Je continue à la consommer, mais de façon très, très particulière parce qu'encore une fois, je ne veux pas l'analyser de façon politique.
Tu veux, en tant que citoyenne.
En tant que citoyenne. Socialement parlant, c'est quoi les engagements? Comment est-ce que je veux qu'un État sert sa communauté, sa société? Comment est-ce que je voudrais que les finances soient gérées pour faire en sorte qu'on puisse miser sur le collectif? Après, c'est sûr que j'ai ces préoccupations-là parce que j'ai une certaine couleur politique. Donc, je veux voir ces éléments-là se traduire dans mes propos, mais aussi dans les décisions qui se prennent. Donc, oui, je la consomme différemment. Je la consomme de façon concernée, mais pas de façon boulimique mm-hmm. non plus parce que ce n'est pas mon métier okay. et je veux garder...
C'est ta façon à toi de me dire que je suis boulimique. C'est pas grave. Tu te retrouves à nouveau, tu le dis, tu débats donc de l'actualité. C'est quoi la différence d'approche entre ce que tu faisais? Déjà, il y a là-bas, c'était la radio, mm-hmm. ici, c'est la télé. Mais au-delà de ça, sur le plan de contenu, c'est quoi la différente... C'est quoi la différence d'approche?
Très bonne question. Je dirais déjà dans le format, on n'est pas dans le même format. Là, c'était la radio, donc on a un confort qui s'installe beaucoup plus. On se concentre peut-être beaucoup plus sur l'information, le contenu mm-hmm. que quand on est en direct
Comment
à la télé.
J'apparais.
Exactement.
Tout, ouais.
Alors là, on est à la télé, ouais. effectivement, étant une femme, mm-hmm. C'est sûr que les éléments physiques mm-hmm. sont importants, donc ce qu'on porte, la façon dont on est coiffé. Bref, ces éléments-là vont quand même prendre une certaine importance, mais aussi dans la notion de débat, surtout dans le concept d'émission de débatteur, c'est que oui, on commente l'actualité d'entrée de jeu, mais on a une demi-heure pour débattre, c'est pas beaucoup. Moins les pauses publicitaires, on a à peu près une 20aine de minutes pour discuter, mais on n'est pas seul. À la radio, on était 2, donc justement le duo. Donc, mm-hmm. on commente l'actualité à 2 avec les interactions avec l'animateur Patrick Masbourian. Donc, c'est sûr que le format, il change parce que à 4 personnes plus l'animateur Michel Bérère à nouveau avec 20 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Mais surtout, même si on a préparé nos lignes de contenu, on a peu d'opportunités de toutes les dire parce qu'on va réagir. Et c'est là où la notion de débat après le commentariat, la notion de débat entre en jeu, parce que là, on va réagir à ce que, bon, mais Cyril a dit mm-hmm. ça, mais pourquoi il a dit ça? Non, mais moi, je veux le challenger là-dessus, parce que ça fait aucun sens que Cyril pense mm-hmm. comme ça. Donc, moi, je vais amener mon point de vue pour essayer peut-être de convaincre Cyril, mais si ça n'arrive pas, mais faire voir l'autre côté de la médaille, effectivement. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'il y a l'aspect où on vient avec ce qu'on a préparé. On a le sujet, pour rentrer dans les détails, on a le sujet le jour même. Encore une fois, là, c'est encore chaud, l'actualité. Mais aussi, l'interaction est beaucoup plus importante, dynamique, parce que c'est ça qui fait aussi le show. C'est que faut rebondir, réagir, commenter, critiquer, être d'accord, pas être d'accord, parce que c'est un show de débat.
On approche de la fin et j'ai des questions, deux, trois petites questions plutôt pratiques.
Je vais essayer de répondre rapidement.
On l'a dit, non, il y a toujours cet aspect de, je ne parlerai plus de diversité, mais d'inclure, plus d'inclusion. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis, c'est aussi une porte d'entrée dans ces médias. On parle beaucoup de l'absence. Est-ce que c'est une porte d'entrée?
Ah, définitivement. Et c'est là où je pense qu'il faut faire attention et il faut planifier un peu cette entrée-là. Moi, c'est vrai que tu le disais très bien, j'avais une plateforme à ce moment-là, même si j'avais fait autre chose, mais j'avais une plateforme, j'ai envie de dire même une légitimité qui me permettait de le faire en janvier 2021 avec mon rôle à la présidence de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Mais après, une fois que c'est fini, pourquoi je suis là, pourquoi je reste et pourquoi je veux revenir ou faire autre chose? Donc, il faut savoir, est-ce qu'on veut faire carrière un peu dans les médias ou est-ce qu'on veut amener un autre point de vue sans nécessairement faire carrière dans les médias? Ou est-ce que, comme tu le disais si bien, on se donne une responsabilité de représenter nos communautés, notre communauté? Et là encore, pour moi, c'est trop gros. Pas parce que je ne veux pas le faire, mais c'est quand même grand et lourd à porter de représenter cette communauté. Donc, parce que là encore, est-ce que je représenterais la communauté haïtienne, la communauté, les communautés noires ou les communautés antillaises? Bref, la question est quand même large et je ne sais pas si j'ai une réponse à ça. Donc oui, c'est définitivement une porte d'entrée pour le monde des médias, à savoir jusqu'à quel niveau on veut rentrer ou jusqu'à quel niveau on veut rester.
Question qui me taraude, j'aurais dit deux ou trois, mais je vais finir avec celle-là. Question qui me taraude depuis des années.
Des années?
Oui, peut-être que tu vas m'aider à y répondre. Pourquoi ce métier va attirer plus de, je parle des femmes noires ou femmes racisées, des personnes noires ou personnes racisées, pourquoi ce métier va attirer plus de femmes que d'hommes? Pourquoi voit-on plus de chroniqueuses ou commentatrices noirs dans les médias aujourd'hui que d'hommes commentateurs? Parce que je peux te les citer, Fabrice Ville, Mickey Guerrier, qui, voilà.
Oui, effectivement, qui fait les débatteurs aussi.
Pourquoi, de ton expérience, de ce que tu observes, des discussions que tu as avec les gens, pourquoi? Peut-être que c'est un cri de cœur que je lance là, pourquoi?
Peut-être c'est un cri de cœur que tu lances, effectivement, et je peux te dire d'entrée de jeu, je n'ai pas cette discussion-là, et c'est toi qui me le fais remarquer. Je pense qu'on en avait parlé dans les coulisses, toi et moi, de cette question-là. Et étant donné qu'on arrive à la fin, je vais laisser tes auditeurs sur une grande réflexion. Et peut-être que là, je vais me mettre dans le trouble en disant ça. Mais parce que les hommes noirs sont moins menaçants. Ça, il faut le dire aussi.
Les hommes noirs sont moins menaçants.
Oh, pardon, excusez-moi. Les femmes noires sont moins menaçantes, pardon.
Parce que les femmes noires sont moins menaçantes.
Bien sûr. Dans les communautés noires, si on doit choisir des porte-paroles, c'est mieux de parler aux femmes. L'aspect positif, c'est que les femmes sont les poteaux, les femmes noires, surtout dans les communautés noires, sont les poteaux mitants. C'est quand on veut s'adresser ou adresser une question, on parle aux femmes. Quand on veut faire changer quelque chose, on parle aux femmes. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est impliqué dans les milieux de femmes et féministes depuis longtemps qui le dit. Donc, oui, on s'adresse aux femmes pour changer les choses. Mais après, pour porter la parole et pour réagir dans les médias, on parle aux femmes noires parce qu'elles sont moins menaçantes que les hommes.
Merci beaucoup, Déborah, chère enfant. Je veux qu'on finisse sur cette réflexion que tu as lancée. Mon nom est Cyril Ekwala.